Bonjour, bonjour et bienvenue sur le podcast Ivoire Talent, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire d'information et de partage d'expériences sur les sujets brûlants de la vie active et professionnelle. Je suis Marc Landry et j'anime ce podcast avec mon binôme de tous les temps, Franck Fadé. Comment tu vas, Franck?
Bonjour Landry, bonjour à tous nos auditeurs. Landry, c'est toujours un plaisir de te retrouver sur le podcast Ivoire Talent. Je vais super bien.
Super, le plaisir est partagé, mon frère. Alors, Franck, dis-nous, qu'est-ce que nous avons au menu aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, nous recevons une personne qui n'est plus à présenter sur le réseau social professionnel LinkedIn. Elle a toujours des messages poignants, des conseils de sage, des analyses profondes sur des domaines qui touchent l'emploi, qui touchent les RH, qui touchent la motivation, le développement personnel et professionnel. Elle a également l'habitude de terminer ses posts en disant « Hello LinkedIn ». Aujourd'hui, nous recevons Marlène Nizi, experte en ressources humaines chez la Société Générale Côte d'Ivoire. Bienvenue Marlène sur le podcast Ivoire Talent et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci, merci, merci Franck, merci Marc-André. Je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui.
Super. Merci Marlène, nous sommes très honorés de t'avoir aujourd'hui. Mais bon, nous aimerons très rapidement rentrer dans le vif du sujet parce que c'est un sujet qui nous passionne tous, moi particulièrement. Donc j'aimerais d'abord commencer par te poser la question de savoir à quoi ressemble le quotidien d'un expert en ressources humaines.
Waouh, à quoi ressemble le quotidien d'un expert en ressources humaines? Déjà, c'est vrai qu'expert en ressources humaines, c'est un terme quand même assez généraliste. Donc, dans les ressources humaines, vous allez voir des spécialistes recrutement, vous allez voir des personnes qui interviennent sur la gestion de carrière, sur de la formation. Voilà, donc, en gros, c'est un métier où on a la lourde charge de veiller au développement du capital humain d'une entreprise et surtout d'apporter également les talents qu'il faut pour le développement de cette entreprise. Donc, en gros, notre quotidien tourne autour de tout ce qui est relations humaines. On est un peu les garants, au fait, de la législation au niveau du droit du travail dans les pays dans lesquels nous travaillons. Voilà, la gestion de talents, l'accompagnement du personnel et tout ça.
Voici qui est vraiment plus clair pour nous et aussi pour tous les auditeurs. Parce que pour la petite histoire, les différents sujets qu'on aborde aujourd'hui ont été également proposés par nos followers sur nos différentes plateformes. Quand sont des questions qui sont très suivies, très attendues. Et d'ailleurs, je viens te demander quel risque court une compagnie qui n'a pas de service ou de département RH?
Ok. Déjà, il faut comprendre aussi que toutes les entreprises n'ont pas forcément besoin d'un département ressources humaines. Je vais dire une entreprise de 10 collaborateurs, je pense que ça va être coûteux de faire un département ressources humaines. On parle de département ressources humaines quand on commence à gérer une quarantaine, une cinquantaine, une centaine de personnes et un peu plus. Parce que voilà, là on commence à, on n'est plus en termes de, multitâches. Donc on se retrouve à avoir un département ressources humaines parce que le problème du capital humain se pose véritablement dans des grosses structures. Donc dans ce que nous on appelle dans notre jargon des structures à taille familiale, donc des très petites entreprises, ils n'ont pas vraiment besoin d'un département de ressources humaines. Ils ont surtout besoin d'une personne qui s'y connaît en termes de, je parle de droit de travail, en termes de législation et en termes d'administration. Donc, aujourd'hui, nous, on connaît une révolution des ressources humaines qui n'était pas le cas dans le temps parce que à cette époque-là, les entreprises n'étaient pas aussi structurées. Maintenant, si vous me dites qu'est-ce que court une entreprise qui, disons, a 50, 60, 100 employés et plus, et qui n'a pas de département de ressources humaines, là, moi, je pense que cette entreprise court de gros risques, notamment dans le management de ses équipes, parce que la direction des ressources humaines accompagne toute la direction, toutes les autres directions dans le management des équipes, dans le bien-être des équipes et surtout, dans la gestion des compétences, amélioration des compétences. Voilà. Donc, pour moi, une entreprise qui peut se permettre, parce qu'encore une fois, il y a des entreprises qui ne peuvent pas se permettre, une entreprise qui peut se permettre d'avoir un département ressources humaines, il faut qu'elle ait un département ressources humaines. Sinon, elle va faire face à une fuite de tous ses talents, à une fuite de toutes ses compétences.
En tout cas, c'est totalement clair. Il y a un thème qui revient très souvent en entreprise. On parle très souvent de la pesée des postes. Je ne sais pas si tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire.
OK. La pesée des postes, je vais faire ça en façon la plus simple possible. La pesée des postes, c'est un système qui consiste à regarder dans l'organigramme d'une société par rapport à le marché actuel et de se dire tel poste, je vous donne un exemple, hein. Par exemple, dans notre tel poste, par exemple un poste de comptable, aujourd'hui, il vaut ça dans notre organigramme, c'est-à-dire pour être comptable, quel type de diplôme il faut avoir. Si vous êtes comptable dans notre société, quel salaire vous allez avoir. Si vous êtes comptable dans notre société, quel est le contenu de votre poste. Au fait, c'est mettre dans une balance, entre guillemets, un poste précis dans une entreprise. Donc, c'est à la suite de la pesée de poste que vous allez voir qu'on va, on va faire un organigramme. C'est à la suite de la pesée de poste que vous allez voir les différentes, j'allais dire, barrières dans l'entreprise. Donc, agent de maîtrise, cadre, non-cadre et tout ça. Tout ça découle de la pesée de poste. Donc, c'est la pesée de poste qui va nous permettre de dire, mais nous, dans notre organigramme, ce poste-là correspond à un profil non-cadre. Mais la pesée de poste ne se fait pas n'importe comment. Elle se fait par rapport à votre contexte et par rapport à ce qui se fait sur le marché, c'est-à-dire le marché au niveau pays. Et aussi, il y a des réglementations au niveau du secteur. Donc, vous allez voir que des postes dans la télécommunication n'auront pas forcément les mêmes poids que les postes dans les finances ou dans l'agriculture et tout ça. Un logisticien aura un positionnement peut-être un peu plus élevé dans l'industrie, un peu moins élevé peut-être dans la finance ou dans la télécommunication. Voilà. Donc c'est ça la
poste. Donc si je comprends bien, ça correspond un peu à l'impact que ce poste-là a dans le secteur dans lequel il est.
Voilà, c'est ça. C'est l'impact que le poste a dans le secteur qu'il est et l'impact qu'il a surtout dans la société, dans l'entreprise.
OK, c'est clair.
C'est une classification des emplois.
OK. Parmi les thèmes qu'on entend souvent, on entend souvent parler également de programmes de talent, bien de talent pool. Des fois, on dit que ce sont des employés qui sont sélectionnés au sein de l'entreprise. Mais plusieurs personnes, et moi aussi, se demandent à quoi servent réellement ces programmes de talent et qu'est-ce qu'on peut en attendre de ce genre de programme.
OK. Déjà, le programme de talent consiste à identifier des personnes au sein d'une société qui ont des capacités au-dessus de la normale. Voilà. Donc, c'est ça le principe au-dessus de la normale. Qui se démarque par au-dessus de la normale. Bon, la normale, c'est par rapport à un pays, c'est par rapport à une entreprise. La normale, je dis, chez X ne sera pas forcément la normale chez Y. Donc, dans chaque entreprise structurée, encore une fois, tous les managers fixent des objectifs opérationnels, des objectifs comportementaux, différents types d'objectifs et on évalue en fin d'année chaque collaborateur en fonction des objectifs qui lui ont été fixés. Donc, on constitue un programme talent par rapport à vos atteintes d'objectifs. C'est le principe général. Maintenant, en fonction des entreprises, il y a des principes un peu plus particuliers. Et à la fin de ça, on se dit au niveau des attentes, au-dessus des attentes. Et en général, les personnes qui sont dans le pool talent sont des personnes qui ont été au-dessus des attentes. Un collaborateur a été au-dessus des attentes, c'est-à-dire qu'en termes d'objectifs opérationnels, la personne a surperformé. En termes d'objectifs comportementaux, la personne a surperformé. Voilà. Donc, ce programme-là permet d'identifier, au fait, les futurs leaders d'une entreprise. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, il y a plusieurs types de talents. Il y a les graduates de programme qui vont intégrer des jeunes diplômés qui ont des compétences, encore une fois, au-dessus de la normale. Donc, soit en fonction de leurs notes, soit en fonction de leur culture, soit en fonction de leur quotient intellectuel ou de leur quotient émotionnel. Voilà. Donc, ce programme-là, au fait, est mis en place pour permettre aux entreprises de chouchouter un peu les perles. Donc, des ressources qui sont très recherchées sur le marché. Donc, ces personnes, on les accompagne, on les forme, on les challenge, on les récompense. C'est aussi un gros programme de fidélisation.
Exactement, voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est le mot même que je m'apprêtais à dire. C'est pour essayer de fidéliser les perles.
Oui, c'est ça. Pour les fidéliser.
Wow. C'est clair. Mais bon, là, on va essayer de changer un peu de contexte, hein, parce qu'on sait que nous sommes tous impactés par la pandémie actuelle du COVID-19. Donc, quel est le véritable impact du COVID-19 sur le personnel des entreprises?
Déjà, il faut comprendre aussi, il faut mettre le... Je pense que tout le monde se pose des questions. Tout le monde, les gens, c'est une question qui me revient très souvent dans les formations que je fais dernièrement ou quand on me contacte sur LinkedIn, on me demande est-ce que les entreprises vont réduire le personnel. Déjà, je veux rassurer les gens en leur disant on ne réduit pas les effectifs pour réduire les effectifs. Ça, il faut être clair. C'est-à-dire, une entreprise ne prend pas plaisir à réduire son personnel. On réduit son personnel premièrement parce qu'aujourd'hui, on n'a plus la capacité de supporter ses charges. On réduit son personnel parce que, je dis toujours, une entreprise, ce n'est pas l'armée du salut. C'est vraiment, on crée une société parce qu'on a envie de faire du chiffre d'affaires. Donc, quand vous regardez toute l'équipe stratégique, toute l'équipe de direction regarde ses chiffres, ses résultats et se dit, là, on est mal. Si on n'est pas en réduction d'effectifs, on ne pourra pas faire de bénéfices, on n'aura pas suffisamment de chiffre d'affaires, l'entreprise va s'écrouler. Donc, on fait des choix. Le COVID-19, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je veux dire, à part si je joue à la magicienne, je ne peux pas vous dire concrètement. Je peux vous dire déjà que le télétravail va commencer à rentrer dans nos habitudes. Vous savez, dans des un peu plus développé. Moi, j'ai des amis à l'étranger et tout ça. Le télétravail, ce n'est pas une découverte. Je vis en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tout le monde est en mode découverte du télétravail.
Je suis d'accord.
J'ai une tata qui travaille dans une organisation internationale. Elle me dit, ça fait 10 ans que mon bureau est à DC et que je vis à Abidjan. Donc, en gros, ça fait 10 ans qu'elle télétravaille tous les jours, au fait. Donc, c'est nouveau pour les personnes. Moi, je viens de dire pour les entreprises francophones parce que c'est maintenant qu'en France, qu'on intègre deux jours de télétravail. Voilà. C'était pas dans nos habitudes, mais aujourd'hui, avec le COVID-19, moi, je suis très contente parce que on sera bien obligé de rentrer ça dans nos habitudes. Donc, ça va être un gros changement. Deuxième changement, je pense que le défi même du personnel d'une direction ressources humaines sérieuse, ça va être de mobiliser l'équipe et de créer encore cet esprit d'équipe parce qu'avec le télétravail, en vérité, on n'a pas le contact. Parce que quand on a le contact, on a encore la possibilité plus facilement de, je ne sais même pas c'est quoi le terme en français, de socialize, de tisser des liens avec ses coworkers. Voilà. Donc, le télétravail va imposer aux responsables de ressources humaines et à toutes les directions RH sérieuses de pouvoir créer des liens, d'innover pour créer des liens, pour maintenir l'esprit d'équipe, l'esprit d'appartenance. Ça va être un gros changement. Et si vous avez remarqué avec le COVID, je dis encore, les sociétés sérieuses ne se sont pas débarrassées de leur personnel. Je dis encore. Donc, les sociétés qui ne sont pas sérieuses ou qui ne sont pas du tout, qui sont pas solides, se sont dit waouh, on va faire des pertes, on libère les gens. Donc, ça va dépendre de la vision de chacun. Ça va être un gros changement. Et moi, j'ai hâte de voir comment le monde francophone de l'entreprise va se comporter après cette pandémie. En tout cas, j'ai hâte. Et ça va être encore plus challengeant pour ce que j'ai choisi.
Mais également dans le contexte de COVID, on se rend compte au sein des entreprises que certains employés sont poussés à prendre des jours de congé, alors même que dans la situation actuelle, on va dire que les congés, on ne peut pas en profiter. Donc, on se demande pourquoi pousser littéralement les employés à prendre des jours de congé dans ce contexte actuel?
Je vais prendre le cas de la législation ivoirienne. Si vous regardez, la crise du Covid est une situation exceptionnelle. Si on veut s'appuyer sur le code du travail, donne la possibilité à un employeur de mettre en chômage technique ses employés. Dans le cas du chômage technique, le code du travail n'oblige pas l'employeur à verser une indemnité de salaire à son employé.
Wow.
Ouais, oui, c'est ça. Au fait, c'est triste, mais c'est vrai. C'est-à-dire, on vous met en chômage technique, mais l'employeur ne se doit pas de vous verser même le SMIG. C'est soumis à son appréciation. Je ne sais pas si vous voyez. Vous avez des sociétés, des entreprises qui se disent, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est une crise qui n'était pas prévue, qui n'était pas planifiée. On peut se dire, dans des pays instables, on peut dire, en cas d'élection, voilà comment on agit. En cas de ceci, voilà comment on agit. En cas d'attentat, voilà comment on agit. Mais personne n'avait pensé à une énorme crise sanitaire où on a un ennemi qu'on ne voit même pas. Donc, les gens se sont dit, chômage technique, qu'est-ce qu'on fait? Chômage technique, on va avoir des employés qui vont se retrouver à la maison et qui n'auront pas forcément de salaire, à part si on leur donne un salaire. Maintenant, vous avez une entreprise qui, dans une situation de crise, fait moins de chiffre d'affaires que d'habitude. À votre avis, ou même vous êtes dans un comité de direction et que vous avez un conseil d'administration, vous avez des investisseurs, vous avez tout ce que vous avez et vous avez un personnel que vous mettez, on va les mettre en chômage technique et puis on va leur donner 100% de leur salaire. Bon, l'entreprise n'étant pas l'armée du salut, j'aime bien cette expression-là.
Yeah, moi aussi, je l'aime bien.
L'entreprise n'était pas... En tout cas, on ne fait pas une entreprise pour faire de la charité, quoi. La charité pour le faire.
Pour la mairie.
Voilà. Donc, du coup, les gens se sont dit, moi, je pense en tout cas à toutes les entreprises qui ont choisi le système de congé. OK, on a des employés qui ont des stocks de congés qu'on a du mal à gérer parce que, voilà, ils sont indispensables, parce que aujourd'hui, tout le monde n'est plus forcément indispensable. Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, prenez des congés. Au moins, si vous avez un stock de congés, le congé vous permet, même quand vous ne travaillez pas, d'avoir votre salaire en entièreté. Maintenant, dans des pays où il y a le social, où le social est beaucoup plus développé, vous partez en chômage, vous avez une indemnité quelquefois qui couvre 80% de votre revenu quand vous travaillez. Ça, c'est dans des pays parce que l'État prend en charge la prime de chômage, comment on appelle ça, l'indemnité parce que vous êtes en chômage et tout ça. Nous, dans nos pays, on n'est pas encore à ça. Mais par contre, il y a des sociétés qui se sont dit, parce que quand les gens se plaignent, on nous a obligés à prendre des congés, moi je vais vous dire, aujourd'hui, j'en connais plein qui se retrouvent et qui sont en chômage technique et qui n'ont pas touché de salaire. Donc, quand on se plaint, il faut se dire, moi je dis, on ne peut pas profiter de ces congés, quoique je pense qu'il y a tellement de choses à faire, il y a des formations, il y a des trucs comme écouter le podcast Ivoire Talent. Voilà, on peut toujours s'occuper en congé. Voilà, je ne sais pas.
C'est clair. Et puis, je pense qu'on va rester dans la même lancée, dans la lancée des conseils. Il y a une question d'un internaute qui demande comment rebondir et avoir un emploi après avoir été licencié du fait du COVID-19. Tu as déjà commencé à mettre des formations qu'on pourrait faire, écouter aussi le podcast Ivoire Talent, aller sur ivoiretalent.com parce qu'il y a des cours en ligne là-bas. Mais quel autre conseil pourrais-tu donner à d'autres personnes?
Je veux dire au fait que déjà, il faut que ces personnes-là se disent, mon cas n'est pas forcément isolé. Voilà. Et une entreprise, à part s'ils sont vraiment en mode vicieux et sorcellerie, une entreprise ne se sépare pas de quelqu'un qu'elle a embauché, à part si elle est contrainte. Donc, il peut y avoir le cas où, après le COVID, la société ait à nouveau besoin de vous et vous rappelle, donc avec même de meilleures conditions salariales qu'avant. Et il peut y avoir aussi le cas où elle ne vous rappelle pas, mais c'est vraiment l'occasion de ne pas du tout se décourager. J'ai parlé aussi, j'ai profité de cette question-là pour parler des personnes qui ont démissionné de leur ancien poste et qui ne peuvent même pas rentrer dans leur nouvelle entreprise parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus rentrer de nouveaux efforts. Ça, il y a des cas comme ça.
Wow. Ça, c'est bien vu. Effectivement, il y en a. Ouais.
Dame qui m'a contactée comme ça sur LinkedIn, qui m'expliquait un peu, j'ai dit, bon, parce que vous avez démissionné en vous disant, ben, je démissionne. Il y a des gens qui démissionnent et qui prennent 3 semaines de vacances et qui se disent, ben, moi, j'ai pris, je dis n'importe quoi, j'ai démissionné fin février, je prends 3 semaines de vacances et fin mars, j'intègre ma nouvelle entreprise. Mais à la mi-mars, toutes les entreprises ont commencé à prendre des mesures contre par rapport au COVID. Donc, certaines entreprises ont été forcées, parce qu'ils ont des valeurs, d'intégrer des employés, malgré la situation. Mais il y a d'autres qui ont dit, niet, on n'intègre pas de nouveaux employés. Donc, ces personnes-là se retrouvent au chômage alors qu'ils ont un contrat en CDI signé. Donc, je ne sais pas si vous comprenez.
Je ne comprends pas faire. Wow.
Voilà. Donc, pour vous dire que ce n'est pas... Les cas comme ça, il y en a tellement. Mais il faut profiter de ce temps, moi, je dis, pour faire des formations, pour faire ce que vous n'avez pas pu faire pendant... Je sais pas, moi j'ai dit aux gens, vous vous retrouvez à la maison, profitez de vos conjoints, profitez de vos enfants. C'est important, ça contribue à l'équilibre aussi. Au lieu de se morfondre, profitez, il y a plein de formations sur Internet. Voilà, et vous avez remarqué que tous les formateurs aujourd'hui ont commencé à donner des formations gratuites. Voilà, donc pour vous dire qu'il n'y a pas d'excuses. C'est une situation qui est triste, mais l'économie va repartir tout de suite. Hein. Ça va forcément, les choses vont changer, nos habitudes vont changer. Et puis, il ne faut pas aussi qu'on fasse comme si le COVID était vraiment la seule. Il y a eu d'autres crises avant et puis le monde a continué. Quoi. Voilà. Non, ça va prendre le temps qu'il faut. Donc, ce n'est vraiment pas le moment de se décourager. C'est vraiment le moment aussi, si vous vous retrouvez en situation de licenciement, de chômage, de vous préparer, et surtout parce que moi, je vous dis, la prochaine question à la mode pendant les recrutements, ça va être, qu'est-ce que vous avez fait pendant le confinement? Il faut bien préparer ça.
J'ai pris note.
Ouais. Ouais, merci pour vos passages. ça va. Et moi, je reviens encore un peu sur les mesures qui ont suivi la crise COVID au sein des entreprises. Tout à l'heure, j'avais évoqué le cas des départs en congé en grille forcée. Mais ça, c'est le moindre mal. Parce que, à côté de ça, on a également des cas où les salaires des employés ont été réduits du fait de la crise. Donc, on se demande, est-ce que c'est légal et que faire face à cette situation?
OK. Déjà, les salaires ont été réduits. Pourquoi? Ça aussi, il faut qu'on ne réduit pas un salaire pour le réduire. Si vous êtes en chômage technique ou en chômage partiel, je pense que la loi encadre bien cette histoire de chômage technique ou chômage partiel. Si vous vous retrouvez en chômage technique, je dis, la loi ivoirienne n'oblige pas l'employeur à vous verser une indemnité de salaire. Donc, s'il décide de vous verser une partie de votre salaire, parce qu'il aurait pu ne rien vous verser, je parle encore de la loi ivoirienne. Dans le cas du chômage partiel, Voilà. Dans certains pays, le chômage partiel, c'est-à-dire vous ne travaillez pas, vous travaillez de façon réduite, avec un emploi du temps aménagé. On estime que si vous avez un contrat de 35 heures et de 40 heures et que vous avez travaillé que 20 heures, en vérité, votre salaire se trouve réduit. OK. Voilà. Ensuite, mais par contre, les personnes qui vous font travailler 35 heures, 40 heures et qui réduisent vos salaires, là, ce n'est pas du tout légal. Voilà. Donc, encore une fois, si vous vous retrouvez dans des sociétés vraiment pas du tout sérieuses, parce qu'il y en a qui font tout et n'importe quoi, sinon, je pense que les gens ne sont pas fous. Et surtout qu'il y a l'inspection du travail, il y a le prud'homme. Bon, en fonction des pays, ça change. Voilà. Mais sinon, les gens trouvent toujours de quoi se protéger dans les lois des différents pays. Donc, c'est triste. Oui, on trouve... Oui, mais en fait, une société sérieuse ne fait pas des choses sans avoir pris le soin de consulter ses experts en droit du travail.
C'est ça.
Donc, ils font pas n'importe quoi. Il faut comprendre aussi que, en vérité, si vous ne travaillez pas, si vous ne produisez pas, une entreprise n'a pas d'obligation de vous verser un salaire, à part si vous êtes en arrêt maladie. Voilà.
Wow. D'accord.
C'est super. C'est super. La question que je me pose, je pense que tu as un peu répondu à ça, mais j'aimerais savoir, est-ce que les entreprises continuent les recrutements durant cette crise sanitaire ou bien les recrutements ont été complètement gelés?
Ok. Certaines entreprises ont gelé leur recrutement. Par contre, si vous prenez l'exemple des entreprises de la grande distribution, ils n'avaient pas du tout intérêt à geler leur recrutement parce que de toute façon, ils ont très bien fonctionné pendant ces temps de crise. Donc, c'est vraiment cas par cas. C'est pour ça que je dis toujours, et même geler les recrutements, ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas de sourcer, on ne continue pas d'être sur LinkedIn pour repérer nos perles, nos talents. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne fait pas nos shortlists. Peut-être que les mesures de sécurité, les gens ne viendront plus en entretien physique, mais aujourd'hui, il y a des entretiens sur Skype, il y a des entretiens sur WhatsApp. Donc, ce n'est vraiment pas le moment, en tout cas, si vous êtes à l'écoute du marché, de vous dire « je ne postule plus ». La preuve, si vous partez sur LinkedIn, certaines entreprises continuent de poster des annonces. Même si ils ne convoquent plus forcément des candidats en entretien, mais tout le monde se prépare parce que les gens se disent « on ne sait pas la stratégie que va adopter le groupe, on ne sait pas ». Donc, aucun recruteur n'a envie, au moment où tout le monde aura ses profils bien apprêtés, là, de se dire « c'est là que moi, je vais partir faire mon sourcing parce que j'aurai chômé pendant 2 mois ». Alors là, pas du tout. Les cabinets de recrutement continuent de faire, même s'ils sont en baisse d'actifs, parce que personne ne va aller investir, en tout cas, très peu de personnes ne vont sous-traiter ces activités de recrutement en ce moment. C'est un luxe quand même. Donc, mais quand même, ils continuent de faire des entretiens, ils continuent d'alimenter leur vivier, ils continuent d'être sur LinkedIn, ils sont actifs, ils regardent.
Voilà. Ok, on dit souvent que on a la crise Covid qu'on affronte aujourd'hui, mais on aura aussi l'après-Covid, qui sera peut-être aussi une autre petite crise avant le redémarrage à plein régime de l'activité. D'après toi, quels seront les impacts de l'après-Covid pour la population active? Et quelles sont les pistes de solutions comme ça que tu pourrais nous donner comme conseil en pensant à l'après-Covid, à la crise d'après-Covid?
Oui, moi je pense au fait que ça va être vraiment une crise humanitaire. Je pense, hein, c'est vrai que les gens parlent de crise financière, bon, on ressent forcément en ce moment. Voilà, donc la crise, c'était une crise sanitaire, mais il y a une crise financière, il y a une crise économique et tout ça. Mais après Covid, il y aura vraiment un gros sujet humanitaire. Je vais donner un exemple simple, hein. Une entreprise qui a mis en chômage technique une grande partie de son personnel. Imaginez-vous comment, aux sorties de Covid, vous revenez travailler après 3 mois sans salaire. Vous aurez, moi franchement, j'aurais mal parce que c'est compliqué. Il y aurait une grosse crise de confiance, au fait.
Exact.
Donc, en gros, tous les comités de direction vont payer cash les décisions qu'ils ont prises pendant la situation de Covid. Parce que moi, j'imagine un employé qui s'est retrouvé pendant 3 mois sans salaire. J'ose espérer qu'il n'est pas resté 3 mois sans chercher un emploi. Donc, les gens ont bien profité de cette période-là pour aligner des lettres de démission sur des lettres de démission. Ensuite, il y aura un gros problème de confiance pour les entreprises qui n'ont pas communiqué. Parce que, encore une fois, donc tout va se jouer. C'est là où je dis, il va falloir qu'on ait des directeurs de ressources humaines qui vont vraiment s'impliquer dans tout ce qui est capital humain, tout ce qui est gérer même les équipes, regagner leur confiance, leur expliquer au fait les décisions, pourquoi on les a prises, pourquoi on n'a pas fait comme d'autres. Et puis surtout qu'avec les réseaux sociaux, tout le monde entend, hein, dans telle entreprise, ils sont restés à la maison, mais par contre, ils ont eu leur salaire en entier. Dans telle entreprise, ils ont eu des avances sur salaire. Moi, j'en ai entendu plein comme ça. Des gens qui me disaient, ah ouais, qui venaient, nous, mais le voisin d'à côté, il a payé quand même 2 mois de salaire en avance.
Ah.
Voilà, donc, pour fidéliser ses équipes, d'autres vont vous dire, ben, vous nous avez mis en chômage technique, alors quand on voit vos chiffres, quand on voit les chiffres pendant la crise, c'était pas forcément des chiffres à la baisse. Donc, vous aurez pu ne pas nous mettre en chômage technique. Donc, il y aura un véritable de confiance, au fait. Donc, je pense que ça va être l'idéal, je sais pas, en fonction des sensibilités de chacun. J'espère en tout cas, pour tous ceux qui nous écoutent, que vous allez vous retrouver. C'est là qu'on va mesurer quelles sont les entreprises qui sont véritablement humaines et dont le but, c'est de maintenir une gestion du capital
humain
vraiment, vraiment correcte. Voilà. Maintenant, en termes de conseils, c'était ça. Donc, quelles sont les pistes de solutions que tu peux nous proposer? Je pense que c'est vraiment le moment de réfléchir fidélisation. C'est vraiment le moment de réfléchir fidélisation. C'est vraiment le moment aussi de réfléchir esprit d'équipe. Et ouais, je pense au fait.
Ce qui est bien dit. Merci beaucoup, Marlène. Alors, chers auditeurs, nous allons marquer une pause et nous retrouver la semaine prochaine, toujours avec Marlène, pour aborder cette fois les questions concernant le recrutement ainsi que la rédaction de CV et de lettres de motivation. N'oubliez surtout pas de partager et de nous laisser vos impressions en commentaire. Enfin, en dehors des podcasts, vous pouvez aussi suivre des cours sur la plateforme Ivoire Talent. C'était Marc Landry et Franck Fadé pour le podcast Ivoire Talent. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode aussi enrichissant que celui-ci. Merci et à bientôt.